Vous écoutez, on lit pour vous.
Destination Accessibilité, un texte de Catherine Anfield, paru le 30 juin 2024, dans la presse. Ève Morissette ne marche pas. Marie-Christine Rissing-Muolo ne voit plus. Et ensemble, elles forment un duo à toute épreuve dans l'émission « Vacances entre filles ». Le concept? Faire découvrir les plus beaux lieux touristiques adaptés du Québec. Nous les avons rencontrés à la plage de Saint-Zotique, accessible aux personnes à mobilité réduite. En ce jeudi frisquet, quelques employés s'activent sur la plage de Saint-Zotique, dans Vaudreuil-Soulanges. Le sable est propre, les pédalos sont sortis, le parcours aquatique Weebit flotte dans l'eau fraîche du fleuve Saint-Laurent. Tout est prêt pour la grande ouverture de la saison qui avait lieu le 15 juin. C'est là que nous donnons rendez-vous à Ève Morissette et Marie-Christine Rissing-Muolo qui auront aujourd'hui une mission double, nous parler de l'émission télévisuelle qu'elles co-animent et, tant qu'à y être, tester les nouvelles installations de la plage de Saint-Zotique. Vacances entre filles est diffusée depuis le début juin 2024 sur la chaîne Ami Télé. Pendant 7 épisodes de 30 minutes, Ève Morissette et Marie-Christine Rissing-Muolo explorent les destinations touristiques adaptées aux personnes en situation de handicap, du centre du Québec à la Montérégie, en passant par les Laurentides, la capitale nationale, l'Estrie et Montréal. L'idée originale vient d'Ève Morissette. Née à 24 semaines, Ève a manqué d'oxygène au cerveau après sa naissance. Elle n'a jamais pu marcher, souffre d'une légère paralysie de la langue et elle manque de dextérité fine. Ça ne l'a jamais empêchée de voyager. Je viens d'un milieu où on faisait beaucoup d'activités avec mes parents et mon frère aîné, l'humoriste, acteur et scénariste Louis Morissette, dit-elle. Jeune adulte, elle se souvient d'avoir monté la colline de Montmartre à Paris, à genoux. En vieillissant, j'ai tendance à mieux choisir mes endroits, convient-elle dans un éclat de rire. C'est pour mettre en lumière cette offre touristique qu'Ève a voulu faire cette émission. Avec Marie-Christine Rissing-Muolo, qui s'est jointe à l'aventure, elles ont fait mille et une activités, du vélo dans Victoriaville, une visite de la chute Montmorency, de l'équitation, une représentation théâtrale adaptée, l'exploration d'un vignoble, une nuit au gîte Vitabella à Saint-Adolphe-d'Howard, seul hébergement 100% adapté du Québec. L'offre touristique adaptée n'est pas énorme au Québec, mais Ève sent une volonté croissante de l'industrie dans les dernières années. Il y a souvent un fardeau financier qui vient avec l'accessibilité, à tort ou à raison, souligne-t-elle. Est-ce qu'il y aurait place à de meilleurs incitatifs financiers? L'accessibilité n'est pas un concept homogène. Pour Marie-Christine Rissing-Muolo, qui a perdu la vue il y a 6 ans à cause d'un glaucome congénital, elle rime avec un bon service à la clientèle pour lui décrire les lieux et la guider. Quand je rentre à l'hôtel, je ne la trouverai pas toute seule, la chambre 305, résume-t-elle. Et pour Ève Morissette, l'accessibilité est affaire d'architecture. Ne faites plus de marche et ma vie va super bien aller. Autre différence, Marie-Christine est à l'aise dans les endroits restreints qui lui permettent de se fixer des repères, tandis qu'Ève se sent plus à l'aise quand il y a de l'espace. Quand les choses ne sont pas tout à fait accessibles, ce sont les gens qui font la différence. On a senti une ouverture incroyable et beaucoup de bienveillance, dit Marie-Christine. Ça, c'est une paye pour le cœur. C'était ses premières escapades en solo, sans son fils depuis sa cécité. Elle a toujours aimé voyager, et c'est toujours le cas aujourd'hui. « J'avais l'impression de voir les paysages qu'Ève me décrivait, » dit-elle. « Et voyager, ce n'est pas uniquement voir, c'est aussi ressentir. » Visite à la plage. À la plage de Saint-Zotiek, les personnes à mobilité réduite ont depuis cette année un terrain de jeu plutôt intéressant grâce à une subvention de Corona Canada de quelque 27 000 $. La pièce maîtresse, un long tapis bleu, Moby Mat, qui traverse la plage jusqu'à l'eau pour permettre aux personnes en fauteuil d'y accéder. Un tapis rigide a également été installé sous un parasol palapa. L'équipe s'est aussi récemment procuré un troisième fauteuil de plage et s'apprête à acquérir une embarcation adaptée, planche à pagaie ou kayak. C'est vraiment l'accès à l'eau que je souhaite développer, indique la directrice de la plage, Isabelle Dalcourt. La plage de Saint-Zotiek, dit-elle, recevait déjà une clientèle à mobilité réduite auparavant, et l'idée est simplement de bien la servir. J'ai encore des choses à développer sur le site pour pouvoir dire qu'on est adapté à la perfection, mais j'aimerais continuer dans cette direction, dit Isabelle Dalcourt, directrice de la plage de Saint-Zotiek. Ève Morissette et Marie-Christine Rissing-Molo, en tout cas, s'y sont plu. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a ce souci d'inclure tout le monde, conclut Ève. C'était Destination Accessibilité, un texte de Catherine Anfield, paru le 30 juin 2024 dans La Presse.
Un an après le blocage des nouvelles sur Facebook, plus de peur que de mal. Un texte d'Étienne Paris, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir. En 2023, il y a bientôt un an, Meta commençait à mettre sa menace à exécution et bloquait tous les contenus journalistiques de ses plateformes Facebook et Instagram au Canada pour ne pas avoir à se conformer à la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne. Un coup de force qui avait provoqué un vent de panique au sein des médias, dont une bonne partie des auditoires à l'époque provenaient des réseaux sociaux. Mais au bout du compte, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Les premiers mois du blocage ont certes été difficiles pour les salles de rédaction, qui ont été forcées d'ajuster leur stratégie. Mais les grands groupes médiatiques constatent pour la plupart que bon nombre de Québécois ont développé, dans les derniers mois, le réflexe de se rendre directement sur leur application et sur Internet pour s'informer. Radio-Canada a même noté en un an une hausse de 12% des visites sur ses contenus journalistiques, même si le diffuseur public n'est plus en mesure de les partager sur Instagram et sur Facebook pour en faire la promotion. Oui, il y a eu une hausse du trafic de 12%. Mais si les nouvelles n'avaient pas été bloquées, l'augmentation aurait probablement été encore plus importante. Il ne faut pas se péter les bretelles avec nos bons chiffres et minimiser l'impact du blocage. Le fait est qu'il y a des gens qui s'informaient uniquement sur les réseaux sociaux qu'on ne réussit plus à rejoindre. Je pense aux jeunes, entre autres. Le blocage des nouvelles, ça reste une très mauvaise nouvelle pour la démocratie, nuance Luce Julien, directrice générale de l'information à Radio-Canada. Elle cite une récente étude commandée par la Société d'État qui indique que plus de 35% des gens entre 25 et 34 ans disent moins s'informer depuis que Meta a commencé à bloquer les nouvelles de ses plateformes le 1er août 2023. « Moi, quand je vois ça, il y a tout de suite des feux rouges qui s'allument », ajoute-t-elle. Les stations régionales de Radio-Canada ont davantage écopé du blocage des nouvelles, comme leur contenu dépendait beaucoup du rayonnement qu'offraient Facebook et Instagram. L'adaptation fut aussi plus difficile pour certains départements du diffuseur public, comme RAD, dont les reportages visent surtout un jeune public, en plus d'être conçus dans l'optique de voyager sur les réseaux sociaux. RAD peut toujours compter sur TikTok et YouTube, mais il n'en demeure pas moins que la décision de Meta a affecté la visibilité du Laboratoire de journalisme de Radio-Canada. Malgré tout, jamais je n'ai pensé fermer RAD. C'est important de continuer à soutenir les initiatives qui cherchent à aller joindre des publics plus jeunes, souligne Luce Julien, qui espère encore que Meta revienne à la table de négociation et que les nouvelles fassent leur retour sur Facebook et sur Instagram. Brian Miles, le directeur du Devoir, juge pour sa part que ce ne serait pas une catastrophe pour son quotidien si la situation actuelle s'avérait permanente. À la fin, il y a eu plus de peur que de mal, conclut-il. Hausse des abonnés. Il concède, cela dit, que la portée des vidéos produites par Le Devoir a été affectée par le blocage, puisque beaucoup d'auditeurs venaient d'Instagram. Mais globalement, les abonnements numériques au Devoir, l'une des principales sources de revenus du journal, ont augmenté de 13% dans la dernière année, pour atteindre leur niveau le plus élevé. Les coops de l'information qui comprennent les 6 quotidiens régionaux du Québec ont également observé une hausse des abonnements, sans toutefois divulguer de chiffres précis. Aujourd'hui, l'enjeu pour les médias, c'est l'intelligence artificielle et le renouvellement du crédit d'impôt qui ne sera pas nécessairement reconduit s'il y a un changement de gouvernement au fédéral. Facebook, ce n'est plus vraiment un enjeu d'actualité pour les médias. Moi, en tout cas, je ne m'attends plus à grand-chose d'eux. Si vraiment l'absence de nouvelles leur faisait mal, ils seraient déjà revenus à la table de négociation, observe Geneviève Rossier, la directrice générale des coops de l'info. Les coops de l'info et Le Devoir étaient auparavant liés à des ententes avec Meta, qui s'engageait à leur verser une partie des revenus engendrés par les contenus qu'ils partageaient sur Facebook et sur Instagram. Meta a mis fin à ces ententes lorsque le gouvernement Trudeau a adopté, en 2023, la loi sur les nouvelles en ligne, aussi connue sous le nom de projet de loi C-18. Cette législation obligeait l'entreprise américaine à rémunérer l'ensemble des médias. Plutôt que de négocier un montant qui serait ensuite redistribué à travers tous les médias au pays, comme l'a fait Google, Meta a préféré bloquer les nouvelles. Davantage de place pour les fausses nouvelles. Avant même cette décision très controversée en août 2023, les auditoires provenant de Facebook et d'Instagram étaient marginaux à la presse, où 85% du trafic était déjà issu de l'application et du site Internet. Le blocage n'a pas engendré de conséquences financières pour nous, car ça n'a pas affecté notre lectorat. Notre inquiétude se porte plutôt sur les conséquences pour la société. Il y avait beaucoup de jeunes qui ne voyaient des nouvelles que dans leur fil d'actualité sur Facebook et sur Instagram. Il faut maintenant trouver de nouveaux moyens pour les rejoindre, exhorte Florence Turpeau-Desroches, vice-présidente aux communications pour la presse. Québécois, propriétaire de TVA et du Journal de Montréal, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue sur les conséquences du blocage. Meta n'a pas non plus donné suite à notre demande. Au cabinet de la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, on déplore l'attitude du géant numérique dans le dossier, soulignant que le blocage des sources d'informations officielles au pays a provoqué une prolifération de fausses nouvelles. Facebook doit agir de manière responsable et débloquer les nouvelles sur sa plateforme, réitère-t-on. C'était, un an après le blocage des nouvelles sur Facebook, plus de peur que de mal, un texte d'Étienne Paris, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir.
Tu tiens mal ton téléphone. Un texte de Heather Kelly, du Washington Post, paru le 17 juillet 2024 dans la presse. Les mises en garde contre le temps d'écran visent généralement la santé mentale ou les relations interpersonnelles. Mais tenir un rectangle de métal dans sa main pendant des heures a aussi des conséquences physiques. Tout comme se coller le visage à l'écran pour distinguer l'image lors d'une émission. Voici quelques petits ajustements de posture qui pourrait vous éviter syndrome du canal carpien, fatigue oculaire ou migraine. On vous a classé ces recommandations d'experts par partie du corps. Les mains. La posture au bureau, devant l'ordi, est un sujet récurrent chez les ergonomes. Mais y a-t-il une ergonomie de la posture devant le téléphone? Selon Lauren Shapiro, qui enseigne la chirurgie orthopédique à l'Université de Californie à San Francisco, la clé est que le poignet soit en position neutre, donc droit ou un peu plié. La flexion ou l'extension du poignet augmente la tension corporelle. Tenir l'appareil serré aussi, rappelle Lauren Shapiro. Elle recommande des pauses. Évitez l'utilisation prolongée. Choisissez un téléphone qui n'est pas trop grand pour votre main et privilégiez les mains libres, comme la dictée vocale ou l'appel téléphonique au lieu du texto. Si, pour tenir votre téléphone, vous utilisez un accessoire au dos de l'appareil, évitez de faire reposer tout son poids sur un seul doigt. Il n'y a pas de données probantes établissant un lien direct entre les blessures aux mains et l'utilisation fréquente du téléphone ou de la tablette, explique la docteure Shapiro. Mais il est possible que leur surutilisation, surtout si on les tient mal, ait comme rançon l'arthrite du pouce, le syndrome du tunnel carpien et la tendinite. Consultez en cas d'engourdissement, de picotement, de douleur, de spasme ou de craquement des doigts de la main avec laquelle vous tenez le téléphone. Même chose pour le bras ou l'épaule. C'est encore mieux de ne pas le tenir du tout. Placez-le à la hauteur des yeux sur un support ou sur son chargeur, si vous avez un modèle à induction. Vos oreilles. En écoutant de la musique avec vos écouteurs, ne montez pas trop le volume. C'est mauvais pour l'ouïe. Les spécialistes en surdité recommandent de garder le son en bas de 70 décibels. Vos yeux. Fixer longtemps l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette peut entraîner la fatigue oculaire. La solution? Distance, pause et un peu de soleil. Selon l'ophtalmologiste Raj Mathuri, porte-parole de l'Académie américaine d'ophtalmologie, il faut tenir le téléphone à au moins 30 cm pour éviter la fatigue oculaire. Une pause de toutes les 20 minutes fait du bien, mais profitez-en pour aller prendre l'air. Dehors, au soleil, vos pupilles se contractent, deviennent toutes petites, explique le docteur Mathuri. Ça soulage automatiquement les yeux. Essayez la règle 20-20-5. Une pause de 20 secondes, toutes les 20 minutes, pour fixer un objet situé à au moins 5 mètres. Des pauses plus longues et moins fréquentes font l'affaire aussi. Vous avez le choix. Choisissez une façon de détendre vos iris et pupilles. Selon les experts, outre la fatigue visuelle, abuser des écrans pourrait mener à des problèmes oculaires durables, surtout chez les jeunes. Le lien direct entre la surexposition à l'écran du téléphone et la myopie n'est pas prouvé. Mais, selon le docteur Mathuri, la corrélation est assez forte. Apple propose une fonction optionnelle appelée « distance de l'écran » dans « Réglages, temps d'écran » qui vous avertit si vous tenez l'écran trop près. Votre cœur. Malgré son nom, le téléphone portable encourage à rester assis sur sa chaise ou couché dans son lit. Si votre téléphone vous empêche de faire du sport, ménagez-vous des périodes de déconnexion. Selon le ministère de la Santé, les adultes devraient faire entre 2h30 et 5h d'activité aérobique modérée par semaine. C'est trop long? Essayez 75 minutes d'activité plus intense. Répartissez cette activité tout au long de la semaine de manière à ce qu'un minimum, votre cœur travaille 30 minutes par jour. Les bienfaits de l'activité physique régulière sont attestés. L'exercice aide à réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de cancer. Il aide à réduire le taux de cholestérol, à augmenter le niveau d'énergie et la tension. Et c'est bon pour la santé mentale. Vous êtes velcro avec votre téléphone? Partez avec! Écoutez de la musique ou un balado pendant que vous marchez ou faites vos courses. Mais on le garde dans sa poche. Votre cerveau. Selon Charles Flippin, vice-doyen de la formation continue à la Faculté de médecine de l'Université de Californie à Los Angeles, l'écran peut déclencher des maux de tête ou des migraines chez les personnes prédisposées. Plusieurs facteurs y contribuent. Immobilité, position du cou, sensibilité à la lumière et clignement moins fréquent, ce qui assèche les yeux. Bref, pas besoin de vous faire un dessin. La solution est d'y aller avec modération et de faire des pauses régulières. Vous êtes sensible à la lumière? Baissez la luminosité ou ne regardez pas l'écran de votre téléphone dans le noir. Pour éviter la tension dans le cou et le dos voûté, placez votre téléphone au niveau des yeux. Nos téléphones ont aussi un impact considérable sur notre cerveau. Ils s'attaquent à notre sommeil. Le docteur Flippin, qui enseigne la neurologie, déconseille tout écran au lit et suggère d'éteindre au moins une heure avant le coucher. Si vous êtes obligé, est-ce vraiment le cas? Minimisez la lumière bleue qui nuit à la production de mélatonine. Sur les appareils iOS, accédez à « Réglages »,« Affichage » et « Luminosité », »,« Night Shift ». Sur les appareils Android, cherchez les paramètres de lumière bleue. Souvent, « Paramètres »,« Affichage », »,« Confort des yeux ». Pour bien se reposer, il faut se vider la tête de la journée et le meilleur moyen, c'est d'éteindre le téléphone, explique le docteur Flippin. C'était « Tu tiens mal ton téléphone », un texte de Heather Kelly, paru le 17 juillet 2024 dans La Presse.
Enfants et risques de noyade. Des gestes qui sauvent. Un texte de Maïté Belmire, paru le 2 juillet 2024 dans la Tribune de Sherbrooke. L'été est là. La saison de la baignade aussi. Que vous vous trouviez au bord d'une piscine creusée ou d'un lac au chalet, ne sous-estimez pas les risques de noyade. Voici un résumé des bonnes pratiques et des gestes à connaître en cas d'urgence avant de sauter à l'eau. Quand la température monte, petits et grands aiment profiter de la baignade pour se rafraîchir, nager ou simplement s'amuser. Au Québec, on estime qu'un enfant se retrouve à l'urgence chaque jour, pendant l'été, en raison d'une quasi-noyade ou d'une noyade. Restez vigilants si vous voulez éviter les accidents. Les gestes qui sauvent. La prévention est vitale pour parer aux accidents. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 2014 un rapport sur la noyade qui mettait en avant les bonnes pratiques à adopter. Parmi elles, en plus des aménagements pour limiter l'accès à l'eau, figure la formation aux manœuvres de secourisme et de réanimation qui peut contribuer à sauver des vies. Voici en quelques étapes des gestes à poser qui peuvent faire la différence si vous êtes témoin d'une noyade.
En cas de noyade, un des adultes présents doit immédiatement contacter le 911 pour signaler l'accident. Idéalement, une autre personne présente va dans l'eau pour récupérer la victime. Vous devez d'abord évaluer les risques si l'enfant se trouve dans une zone profonde, explique Rénal Hawkins, directeur de la Société de sauvetage du Québec. On veut éviter d'avoir deux victimes, ajoute-t-il. S'il est possible de sortir l'enfant de l'eau, il faut le déposer sur une surface plate et rigide, comme une terrasse ou un comptoir de cuisine. Une fois qu'il est allongé, on vérifie s'il a perdu connaissance. S'il est réveillé, il risque de tousser pour essayer de reprendre sa respiration. C'est une réaction tout à fait normale. Si l'enfant sorti de l'eau est inconscient, vous devez immédiatement amorcer la réanimation cardio-respiratoire, RCR. On masse la poitrine avec les doigts pour un bébé, avec une seule main pour un enfant de moins de 8 ans, et on peut utiliser les deux mains à partir de 8 ans. Il existe des cours de secourisme qui peuvent vous apprendre à poser ces gestes adéquatement. Commencez par deux ventilations, puis faites suivre par 30 compressions. Cette manœuvre ne permet pas de réanimer le corps inconscient, précise M. Hawkins, mais elle permet de garder artificiellement la personne en vie. Plus vous amorcez le RCR rapidement, plus vous limitez le risque de séquelles neurologiques. Dans cette situation d'urgence, restez au téléphone avec le 911 qui vous guidera dans les différentes étapes et surtout, continuez le RCR jusqu'à l'arrivée des secours. Dans le cas d'une quasi-noyade, surveillez l'état général de l'enfant dans les 48 heures qui suivent l'accident, car il existe un phénomène qu'on appelle noyade secondaire ou noyade sèche. Dans ce cas, des symptômes apparaissent après coup, comme de la fièvre ou des vomissements. Si votre enfant rit, s'il a faim, c'est que tout va bien. S'il change de comportement ou qu'il se sent mal, il est recommandé de consulter, insiste M. Hawkins. Apprendre à nager le plus tôt possible. Une noyade est très vite arrivée. C'est un phénomène silencieux qui dure moins de 30 secondes, alerte Rénal Hawkins. Toutes les mesures sont bonnes à prendre pour l'éviter. Inscrire les enfants à des cours de natation leur permet d'apprendre au moins les gestes de base pour ne pas se noyer. La Société de sauvetage propose le programme « Nager pour la vie » qui offre des cours par tranche d'âge et par niveau. Les plus jeunes, de 4 ans et moins, peuvent déjà apprendre à flotter sur le dos en faisant l'étoile pour être capables de respirer lorsqu'ils sont dans l'eau. À partir de 4 ans, l'enfant peut commencer à apprendre des mouvements pour se déplacer. C'était « Enfants et risques de noyade, des gestes qui sauvent », un texte de Maïté Bellemire, paru le 2 juillet 2024 dans la Tribune de Sherbrooke.